Oui, merci Daniel et vive la Guadeloupe. Je suis Arline de Bordeaux. Je connais bien la Guadeloupe. J'aime cette île et j'aime ce peuple. Et je trouve qu'ils sont drôlement courageux. Contrairement aux petits Français vaumoyens qui ont tout à l'heure témoigné en disant qu'on allait payer leurs factures. Allez, allez, ils connaissent rien du tout. Moi, je comprends leur histoire. Et vraiment, je suis de tout cœur avec eux et j'en ai les larmes dans les yeux. Ciao.
Bonjour Daniel Mermet. Voilà, j'appelle pour parler d'un problème que beaucoup de gens évoquent sur les antennes, c'est le touriste. Donc, beaucoup de gens pensent que le touriste rapporte de l'argent aux Antilles. Voilà, ils disent, voilà, les gars, ils font fuir le tourisme. Mais il faut savoir une chose, c'est que le touriste, chaque année, on annonce des chiffres qui sont souvent hausses ou bien par rapport au gov qui baissent. Dernièrement, il y a 15 jours ou 3 semaines, on a annoncé que la grève faisait perdre 100 millions d'euros par semaine aux touristes. Il faut faire attention, parce que ces 100 millions d'euros, là, ce ne sont pas de l'argent qui va dans les poches des Dominicains, ni des Antilles françaises ou quoi que ce soit. C'est de l'argent qui va dans les poches des tour opérateurs. Voilà. Et le touriste, s'il rapporte quelque chose, ce sont les quelques taxes qu'on va verser, que ces tour opérateurs vont verser aux régions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le touriste, quand il prend son billet, en métropole ou n'importe où, il prend souvent le all-inclusive. Ça veut dire que ce touriste, il arrive aux Antilles, il arrive les mains dans les poches, il passe des vacances dans les mains dans les poches et repart les mains dans les poches. Ça veut dire qu'il ne s'arrête même pas dans un petit lolo ou dans une boutique pour acheter ne serait-ce qu'une pâtisserie locale ou un souvenir local. Et si ça se trouve, quand il voyage, quand il prend l'avion pour venir aux Antilles, il voyage avec le t-shirt qu'il va ramener, qui est marqué Martinique ou Guadeloupe, bienvenue. C'est un t-shirt qui a été fabriqué en Chine et qui arrive dans les hôtels, qui a été amené par le tour opérateur et vendu pour lui dans l'hôtel où il est. Voilà.
Salut Daniel, salut à tous. J'ai pas entendu parler des facilités fiscales qu'avaient les métros à investir dans les DOM pour faire des hôtels, avoir des bateaux qui font des charters et qui emploient des gens du cru comme personnel à tout faire, qu'ils payent à coup de lance-pierre. J'aimerais bien entendre parler un peu de cela au sujet de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est valable aussi pour la Réunion du reste. Hein. Parce que là, il y a quelque chose de scandaleux là, que pour le moment, on n'entend pas du tout parler. Merci de nous en faire part. Et bon courage à tous.
Voilà, bonjour à vous tous, Daniel Mermet et toute l'équipe. Suite à vos émissions sur la Guadeloupe, là j'ai été très, très touché bien sûr, parce que j'ai vécu longtemps en Guadeloupe, moi je suis métropolitain, mais j'aurais aimé, je ne sais pas si Daniel est encore là-bas, qu'il nous parle ou qu'il contacte les fameux intellos martiniquais. Je voudrais bien savoir s'il y a aussi des écrivains guadeloupéens qui s'y sont associés. Ce fameux manifeste pour les produits de haute nécessité, donc ce texte philosophique qui élève beaucoup beaucoup le débat. Pas que le débat soit pas assez élevé là du tout, mais arriver à aller plus loin que les revendications matérielles pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire de ces îles, comment ils pourraient profiter du paradis dans lequel ils sont, effectivement un paradis écologique, pour se libérer de la bagnole, entrer dans une certaine décroissance, retrouver la médecine feuille. Enfin, on peut faire des choses fantastiques qui pourraient être le fer de lance de notre révolution mondiale, en fait. Hein. Merci encore. Au revoir.
Que l'on soit pour ou contre le LKP, de toute façon, nous n'avons pas le choix de travailler ou pas. Bon. Problème. Pour les salariés du secteur privé, nous allons vers 6 semaines de grève, donc 6 semaines sans salaire. Nous sommes des milliers de personnes concernées. Bon, bah sans salaire, voilà, c'est la catastrophe. Et quand la poste va fonctionner, on ne sait pas quand. Ça veut dire arriver des factures au EDF, etc., etc. Personne n'aborde ce problème. LKP ou pas, bon, la convalescence va être très très dure. Ce serait bien d'aborder ce problème. Bon, personnellement, je suis employée par un Guadeloupéen, une petite entreprise. Ce monsieur ne déclare pas les charges sociales. Petit profiteur derrière les grands profiteurs. Mais là, je suis vraiment le bec dans l'eau. Il faut savoir tout ça.
Bonjour tout le monde, ici Jean-Pierre de Toulouse. Contrairement à Ségolène Royal, je ne pense pas qu'une augmentation de 200 euros pour les bas salaires en Guadeloupe soit une grande victoire pour tout le monde. Au contraire, ils vont servir à consommer, donc à engraisser encore plus la grande distribution et compagnie. À la rigueur, une diminution drastique des prix et un contrôle de ceux-ci par la collectivité servirait au moins à tout le monde. Le grand fantasme, ce serait que les Guadeloupéens récupèrent leurs terres pour y produire ce qui leur est nécessaire, d'abord nécessaire, et non pour l'exportation, qui récupèrent leur commerce, leur industrie, le tourisme et bien sûr leur maison. On pourrait appeler ça une société participative. Ce pourrait être une expérience alternative, facile à réaliser sur un petit département. Au revoir à tout le monde.
Oui, bonjour, ici le repère des amis de là-bas, si j'y suis en Guadeloupe, pour vous signaler lundi une tenue du repère exceptionnelle en présence de Daniel Mermet à 11h à la Casa, donc à la Jaille sur Bemao. En Guadeloupe, on vous attend le plus nombreux possible. Bonne journée.
Ah oui, surtout, amis de Prêt-à-Pitre, n'oubliez pas ce rendez-vous à 11h, local, bien évidemment, tout à l'heure à la Casa, pour ce repère exceptionnel avec les auditeurs modestes et géniaux et nombreux que nous allons rencontrer, auditeurs de la Basse J'y suis et de France Inter réunis. Très important ce qui s'est dit auparavant, cet auditeur qui a des idées sur ce que pourrait être l'avenir de cette île, de cette Guadeloupe, parce que il ne faut pas beaucoup de temps pour comprendre quelque chose ici. C'est qu'au fond, sans doute qu'en moyenne, ce pays, cette île, n'est pas pauvre. Je veux dire qu'en moyenne, on doit trouver un chiffre qui n'est pas si mauvais que ça, concernant les revenus, le niveau de vie, etc. Sauf que c'est très, très inégalitaire. La Guadeloupe, à l'évidence, a d'abord et avant tout un problème de distribution, de redistribution, de partage des richesses. Si vous deviez expliquer à vos enfants ce qu'est le capitalisme, emmenez-les ici, à la Guadeloupe ou en Martinique, à côté, c'est à peu près la même histoire. Vous aurez tout à leur faire comprendre. Ce que fut l'esclavage, ce que fut la colonisation, ce que fut la surexploitation des hommes, mais aussi l'appropriation de tout, des terres, de l'eau, des ressources et des hommes aussi, peu importe, c'est l'appropriation des moyens de production. Eh bien, c'est ça dont il s'agit, c'est cette lutte ici qui continue, et ça s'appelle la lutte contre la profitation, c'est absolument génial, ça nous concerne tous, nous sommes tous dans cette lutte aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a autant de journalistes venus de partout qui comprennent qu'ici, on a compris et que cette lutte n'est pas une lutte locale, mais une lutte absolument globale. Et voilà pourquoi nous sommes encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on va vous raconter ce qui s'est passé ces jours derniers, ces deux dernières journées, deux journées de trêve. Les habitants de Pointe-à-Pitre et de Guadeloupe sont allés faire des courses, les magasins ont un peu rouvert, on a levé les barrages, on a pu retourner à la pompe à essence et connaître à nouveau les joies des embouteillages. Embouteillages qui, dans un pays comme celui-là, doivent faire tout à fait la joie et le bonheur des distributeurs d'essence qui, eux aussi, ont un monopole. Il y a un monopole de la distribution de l'essence ici, comme beaucoup d'autres monopoles. On l'évoquera notamment dans les cantines scolaires, etc., etc. Voilà. Alors, des pontes, donc, 13 peut-être, mais les négociations reprennent à 11h locales ce matin, et c'est pas fini du tout. Les habitants se disent tout à fait prêts à reprendre la grève, à refermer, à lutter à nouveau jusqu'au bout, jusqu'à obtention des raisons pour lesquelles ils se sont mis en grève. Les 49 syndicat et association du collectif LKP se sont mis en grève depuis le 20 janvier dernier. Donc ils ne sont pas prêts à lâcher, même si il y a eu une détente pendant ces deux jours et que ce matin le ciel est bleu, les alizés sont doux, mais la tension est grande, aussi grande que la vigilance. Voilà ce qu'on va vous raconter aujourd'hui jusqu'à 16h dans la base si j'y suis. Rendez-vous à la CASA tout à l'heure à 11h locale, je le rappelle. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base si j'y suis. Au 01 56 40 37 37. Et je n'oublie surtout pas de remercier nos amis, nos chers amis, David, Margot et toute la famille.
Bénéfice record de Total en 2008, 13,9 milliards d'euros. Nous en sommes ravis, car notre État, grâce à tous les groupes pétroliers français, engrange lui aussi par le biais des diverses taxes des milliards. Notre essence étant taxée 150%, 97% seulement pour le gazole, au premier trimestre 2008. Un litre de sans-plomb 95 à la pompe nous coûtait 1,40 €. Revient au pétrolier 56 centimes d'euros, plus 150% de taxes, soit 84 centimes par litre, normalement reversés à l'État. Pareil pour le gazole, hein. Enfin, seulement avec 97%. C'est tout ceci est lu dans Wikipédia. Mais est-ce vrai? Que devient tout cet argent? Pouvez-vous nous en tenir informés? Merci pour vos émissions, politiquement incorrectes, mais jusqu'où? Une AM. Bonne journée à tous, merci.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Le repère d'Aix-en-Provence vous donne rendez-vous demain à 19h30 au bar Le Festival en bas du cours Mirabeau. Ce sera une soirée débat multithème, vu l'actualité du moment qui foisonne au quotidien, à savoir les dom-toms, enseignants-chercheurs, étudiants, crise, etc. Venez nombreux et bien emmitouflés, car il fait un peu froid dans la salle où nous sommes accueillis. À demain.
Oui, Laurence et Bernard de Guadeloupe. Voilà, j'ai un petit message pour M. Sarkozy. C'est pas le RSA qu'il faut envoyer en Guadeloupe, c'est des emplois qu'il faut créer.
Bonjour, Will, du repère castré de là-bas si j'y suis. Deleuze disait qu'être de gauche, c'était percevoir le monde d'abord. Comprendre que les problèmes les plus éloignés de nous sont en vérité plus proches que ceux qui nous touchent localement. De gauche ou pas, voir le monde en commençant par le bout de l'horizon lointain et pas par le bout de son nez, ça crée une perspective nouvelle, une autre vision, un autre monde. Alors allez voir là-bas si on y est, c'est un peu aller voir ces échos, ces unités dispersées dans le monde, pour les réunir. Prochain repère de Castres, dans le Tarn, au Kiwi Bar, place de l'Albenque, à droite de l'église. Mardi 24 février, à partir de 19h30, nous parlerons des alternatives écologiques et sociales, notamment avec l'économie solidaire et l'éco-habitat. Venez nombreux.
Il était resté silencieux depuis le début de la grève il y a un mois. Nicolas Sarkozy a donc pris en main le dossier de la Guadeloupe ce soir.
Je sais le sentiment d'injustice qui vous habite face à des inégalités, à des discriminations, qui vous paraissent à juste titre, j'emploie le mot, intolérable. Ce sentiment d'injustice, je le comprends, je le partage. Comment en effet justifier que les prix dans les départements d'outre-mer soient plus élevés qu'en métropole, et donc le pouvoir d'achat plus bas? Comment justifier que le chômage y soit si important? Comment justifier les monopoles, les surprofits, les rentes de situation? Et pourquoi ne pas le dire? Des formes d'exploitation qui ne devraient plus avoir cours au XXIe siècle.
La profitation, c'est l'utilisation de la position du dominant pour anéantir le dominé, pour vraiment l'écraser. Et la notion d'écrasement et la notion de domination extrême dans cette notion de profitation. Et donc, je pense que l'ensemble des Guadeloupéens se sont retrouvés.
Le président de la République annonce des mesures concrètes pour dénouer la crise. Il propose un effort supplémentaire de l'État de 580 millions d'euros et une batterie de mesures. Une prime exceptionnelle payée par les patrons, exonérée de charges qui avoisine les 200 euros. Pour le RSA, il sera versé avant la fin de l'année. Il concernera 110 000 foyers modestes dans l'ensemble des DOM. Un contrôle sera établi sur une centaine de produits de première nécessité.
Aujourd'hui, par contre, c'est une situation qui n'est pas évidente parce qu'il me semble relativement clair que les propositions que fait l'État sont techniquement peu claires, floues.
Alors c'est pour ça Donc c'est pour ça
que
nous avons dit au patron et nous avons dit à l'État, allez réviser votre copie. Et on a rendez-vous lundi matin à 11h
pour continuer les négociations.
C'est pour cette raison qu'on demande à tout le peuple de Guadeloupe de rester mobilisé. On ne va pas lâcher la mobilisation. Nous sommes en grève.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base, j'y suis avec Antoine Chao, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, un papillon au deuil.
Flight number 2, arriving from New York.
Il faudrait demander à ceux qui nous écoutent d'imaginer où nous sommes avec le, ce qu'on entend là. Ah, vous écoutez. Voilà. Vous entendez des tambours, vous entendez des voix, vous entendez une grande assemblée, quelque chose de vivant, d'une intensité comme ça, d'une foule. Eh bien, on est dans un gymnase, un très grand et très beau gymnase, au milieu... C'est un terrain de handball, un terrain de basket, polyvalent, multisport comme on dit. Eh bien, c'est une veillée funéraire. C'est une veillée funèbre à laquelle on assiste. Il y a une foule autour de nous de gens habillés élégamment, qui ont mis leurs plus beaux vêtements. C'est, il y a quelque chose de la fois d'amical, de solidaire, d'ému, de solennel. Et là, derrière ce, accroché à ce, la cage du but de handball, il y a des fleurs, il y a des tentures, et devant, il y a un cercueil, qui est le cercueil de Jacques Binot. Jacques Binot, c'est cet homme qui a été assassiné il y a quelques jours à Pointe-à-Pitre, et qui est le mort, symbole de ce mouvement qui dure maintenant depuis 5 semaines. 5 semaines de lutte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le public défile par s'incline, salue, puis ensuite va remplir un cahier de compte pour les condoléances. Mais alors, il y a la télé qui est là, les équipes de télé qui font leurs journaux du soir, il y a des photographes, tout le monde est en train de... Voilà, c'est comme une manifestation, après tout, médiatique comme une autre, au fond. Sauf que c'est autour d'un cercueil où on peut voir d'ailleurs le visage du défunt. Voilà, alors cette veillée va durer, on nous dit, toute la nuit. Elle doit durer de façon continue jusqu'aux funérailles.
Donc voilà. Ils vont se relayer, et puis parce qu'en fait dans la tradition, il ne faut pas laisser le mort tout seul le soir. Dans la tradition, en fait, on veille, on reste avec le mort. Donc il y a une peur qu'on ne parte ou qu'on ne fasse du mal. On n'utilise pas le mort pour faire du mal, etc. Et donc on veille, on accompagne les parents. C'est une façon aussi de réconforter les parents et de ne pas les laisser seuls face aux défunts.
Alors c'est quand même le mort de la lutte ensemble contre la profitation. Il ne faut quand même pas oublier ça. On voit des drapeaux de la CGTG, Confédération Générale des Travailleurs de Guadeloupe. On voit le drapeau de Aquilio, qui est un mouvement culturel très important et très puissant en Guadeloupe. C'est ça aussi, hein. C'est un mort politique. Avant tout, c'est un mort politique porté par une revendication. Mais là, on n'est pas dans un accident d'automobile. On est dans un épisode historique. Historique pour la Guadeloupe, évidemment, mais historique pour tout le monde, parce qu'il s'agit d'une lutte, tout le monde dit la même chose, une lutte contre le capitalisme, c'est rien d'autre que ça. C'est une lutte, tout le monde répète, oui, la question, c'est les monopoles, c'est une économie qui est entre les mains de quelques-uns, c'est un gouvernement qui défend ces quelques-uns-là, c'est un gouvernement, c'est le gouvernement du CAC 40, tout le monde le répète, on pourrait faire un sondage, et tout le monde répéterait à peu près la même chose. Donc, voilà ce qui se passe. Alors après, il y a évidemment l'épisode qu'on est en train de vivre, celui des négociations, de savoir qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va perdre, jusqu'où pourront aller les négociations, où en est la, l'opinion, où en est la lutte, l'état de fatigue, d'énervement, d'épuisement de toute cette population qui lutte et qui souffre parce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement, de circulation, etc. etc. C'est ça dont il est question. Mais d'ores et déjà, c'est une formidable victoire que cet élan d'une île, d'un peuple sur une île qui a soulevé des thèmes de surface, des thèmes factuels, mais des thèmes très profonds qui ont indéniablement un caractère universel.
Tambour, prière, rhum, danse, ferveur et gros cap pour la veillée funéraire à Grand Canal autour du cercueil de Jacques Binot. C'est une soirée évidemment très importante, capitale dans cette longue lutte de la Guadeloupe contre la profitation. Parce que tout le monde se demande bien sûr qui a tué Jacques Binot, quelles furent les circonstances de sa mort. Mais il y a une certitude pour tous, ce qui a tué Jacques Binot, c'est ce qui a détruit et qui a pourri et perverti la Guadeloupe, c'est la profitation. Profitation, il faut prendre ce mot créole dans son sens le plus immédiat, c'est-à-dire le profit et l'exploitation. Et c'est ça le coup de génie de la Guadeloupe, c'est ce mot de profitation, et ça tout le monde comprend. Voilà pourquoi il y a ici aussi bien les équipes de CNN que les équipes d'Al Jazeera, parce que de Cleveland à Bagdad, de Basse-Terre à Fos-sur-Mer, on comprend très bien, à cause de cette crise financière, à cause de cette gigantesque crise économique qui secoue la planète, ce qu'est la profitation. Et il aura fallu donc que ce soit ce petit peuple sur cette petite île qui est le génie de dire, de mettre le mot sur la chose et sur ce que nous vivons tous sur cette planète actuellement. On va suivre aujourd'hui ce qui s'est passé dans les dernières heures de vendredi, samedi, dimanche. Vous saurez tout d'ici à 16h dans la Basse J'y suis, contre la profitation.
Hey!
dire.
Un endroit qui est devenu un haut lieu à Pointe-à-Pitre, c'est le port autonome. Pourquoi le port autonome ? Parce que c'est là qu'ont lieu les négociations. Et devant le lieu des négociations, devant l'immeuble où se tiennent les négociations, eh bien, tout le public est là, toute la foule est là, jouant du tambour, attendant, discutant absolument de tout. Ça rappelle évidemment les groupes de parole de mai 68, rencontre avec un historien, Claude Otto.
Qu'est-ce que vous pensez de la situation, monsieur l'historien ?
Je pense que c'est une situation intéressante, importante, c'est quasiment historique, dans le sens où elle inclut un changement vis-à-vis de tout ce qui s'est déjà passé auparavant, et en particulier par rapport au positionnement des Guadeloupéens et à leur unité face à nos revendications et pour nos revendications constructives. L'autre aspect qui est important, c'est l'aspect de l'unité, en termes de couches sociales, classes sociales, personnes de différents niveaux et de différents horizons qui sont réunis autour d'un thème et d'une thématique qui est celle de la profitation, qu'on pourrait appeler abus, profit abusif, mais qui est dans notre créole, est beaucoup plus connoté que ça. Ça veut dire la profitation, c'est aussi l'utilisation de la position du dominant pour anéantir le dominé, pour vraiment l'écraser. Il y a la notion d'écrasement et la notion de domination extrême dans cette notion de profitation. Et donc, je pense que l'ensemble des Guadeloupéens se sont retrouvés. Aujourd'hui, par contre, c'est une situation qui n'est pas évidente, parce qu'il me semble relativement clair que les propositions que fait l'État sont techniquement peu claires, floues, et à mon sens, difficiles à digérer, difficiles peut-être à accepter pour des gens qui sont dans une situation économique difficile et qui ont beaucoup de choses à dire, de choses à redire.
Il y a un thème qui revient tout le temps dans cette histoire, c'est le thème de l'indépendance. Et alors, beaucoup disent depuis le début de cette crise, oui, derrière ça, il y a une volonté indépendantiste. Il y a une volonté de conduire la Guadeloupe vers son indépendance.
Je ne pense pas du tout, absolument pas. Il y a une volonté de poser des problèmes de fond qui n'ont jamais été posés depuis des dizaines et des dizaines d'années par les hommes politiques et par un certain nombre d'autres personnes. Et il y a une forme de prise de conscience des rapports sociaux et de l'inégalité extrême des rapports sociaux en Guadeloupe, au-delà des clichés plage et compagnie, et de la dureté de ces rapports sociaux. Et à partir de ça, le LKP a posé des questions qui sont des questions d'une part matérielle, mais aussi qui sont des questions d'ordre plus sociétal, plus fondamental, qui inclut le problème du rapport avec la France et qui inclut in fine la question politique. Mais les thèmes de l'indépendance ou même de l'autonomie n'ont jamais été des thèmes qui, en tant que tels, ont fait partie des revendications ou qui sont revendiqués de manière positive ou de manière revendicative à la fois par le LKP et par l'ensemble des gens. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est vrai que ça n'empêche pas que le problème politique soit sous-jacent. Et que le problème politique, qui est le problème de la liaison, le problème du rapport politique économique entre la France et ses dépendances, et principalement entre la France et la Guadeloupe. Mais la question de l'indépendance, en tant que telle, n'est pas à l'ordre du jour, elle n'est pas posée. C'est une question qui, dans tout autre pays du monde, se poserait normalement, mais qui, en Guadeloupe, a une contenance particulière parce que la question de l'indépendance a été diabolisée. Donc, quand on dit systématiquement que la question de l'indépendance est posée, et ce n'est pas innocent, même au niveau de certaines couches sociales en Guadeloupe, quand elles disent ça, elles savent bien ce qu'elles disent, au niveau de la population guadeloupéenne.
Il y a une chose qui frappe beaucoup en Martinique, qui frappe aussi beaucoup ici, c'est quand même la domination de ce qu'on appelle les béquets, qui dominent ces îles depuis le XVIIe siècle, et qui de façon constante sont toujours là, maîtrisent une partie de l'économie, de la distribution, et qui ont évidemment des connivences politiques évidentes. On le sait, on l'a vu surtout dans ce documentaire fameux qui joue un rôle très important dans cette histoire. Vous êtes historien. Comment se fait-il que depuis 1635, c'est
1635,
ça
oui.
1635, cette caste ou cette catégorie sociale, disons, est réussi à se maintenir.
Alors, il faut bien faire une distinction. Moi, je pense qu'elle est importante. Il faut bien comprendre que béquet, c'est un terme martiniquais et ça retrace une réalité martiniquaise. En Guadeloupe, nous ne disons pas béquet, nous parlons de blanc pays. Pour revenir à votre question, il y a un poids différent de la caste béquet ou du groupe béquet, mais moi j'appellerais, si on prend le terme précis, c'est une caste dominante. Il y a un poids différent de la caste dominante béquet en Martinique et en Guadeloupe. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène qui est plus ou moins historique, c'est qu'au XVIIIe siècle, lors de la Révolution française, 1794 précisément, à l'aumône de la Convention, la Guadeloupe devient libérée avec Victor Hugues. Et Danton dit, libérons les esclaves, c'est maintenant que l'Anglais est vaincu. Et quand il dit ça, effectivement, il y a libération des esclaves. Donc, la Guadeloupe, en 1994, février 1994, devient département français pour la première fois. Et en Guadeloupe, ce qui se passe, c'est que les dominants, les propriétaires, ce qu'on appelle la plantocratie blanche dominante, est décapitée. Il y a un roman de Le siècle des Lumières d'Alain Carpentier qui décrit très bien le fonctionnement de la guillotine après Dapit. Donc en Guadeloupe, on a une situation à partir de 1994 où les blancs, la plantocratie blanche, est exécutée en grande partie.
En grande partie, ça veut dire combien de personnes ?
On peut bien penser qu'il y a près de plus de 40% qui est décapité, 2 à 3 000 personnes à peu près.
Tout noir, accusé d'être paresseux ou désobéissant, discuteur ou rebelle, était condamné à mort. Et comme il fallait donner une leçon à l'île tout entière, la guillotine, tirée de la place de la Victoire, s'est mise à voyager par mont et par bourg. Le lundi, les premiers rayons du jour la surprenaient au moule. Le mardi, elle travaillait au gosier où il y avait à punir tel ou tel paresseux. Le mercredi, elle donnait raison des six monarchistes cachés dans l'ancienne paroisse Sainte-Anne. On la transportait de village en village et on la promenait de taverne en taverne. Le bourreau, et si cède, la faisait fonctionner à vide, moyennement de petits verres et de pourboires pour que tout fût instruit de son mécanisme. Alejo Carpentier, le siècle des Lumières.
Donc il y a des décapitations en masse, il y a une émigration très forte, et de ce fait, la plantocratie blanche est, en Guadeloupe, je ne dirais pas éradiquée, mais elle est fortement...
Décapitée, c'est le cas de dire.
Elle est raccourcée, entre guillemets, premier point. Deuxième point, un grand nombre d'entre eux partent. Alors, ils vont en Martinique, certains vont à Saint-Domingue, avant la grande catastrophe de 1804, et d'autres partent vers Cuba. Okay? Donc on a une émigration et on a un affaiblissement de la plantocratie ou des blancs pays, ce qu'on appelle les blancs pays, sur place en Guadeloupe. En Martinique par contre, il n'y a pas de 1794. Donc en Martinique, les colons martiniquais, les béquets, font appel aux Anglais. Et ils gardent la Martinique sous l'emprise anglaise, donc avec le système esclavagiste. Alors qu'en Guadeloupe, entre 1994 et 1802, le système esclavagiste disparaît. Et que les Noirs accèdent à certains postes, à certaines places dans la société. Donc, on a deux conformations sociales différentes. On a en Martinique une formation sociale où on a les béquets, dont le pouvoir économique et le pouvoir foncier n'a pas été touché, n'a jamais été touché, qui ont gardé un rapport paternaliste, parce qu'ils ont une proximité avec leurs anciens esclaves qui sont devenus les nouveaux affranchis ou les nouveaux citoyens. Et en Guadeloupe, on a un rapport social qui est un rapport entre des sociétés capitalistes françaises, ce qu'on appelle la mémise du capital français, et sociétés capitalistes françaises avec des relations sociales qui sont extrêmement tendues, qui sont plus modernes, qui sont plus violentes. Ce sont des capitalistes purs. Donc eux, ils sont là pour faire tourner la machine. Et s'ils font tourner la machine, bon, eh ben, ils organisent les gens, ils organisent l'espace, ils organisent le travail. Et il n'y a pas, comme en Martinique, la proximité du regard, la proximité de l'histoire, la proximité culturelle, puisque le béquet parle créole. Le directeur de l'usine qui vient de Bordeaux, il arrive à Bordeaux, il parle créole. Hein. Donc il y a toute une distance qui se crée et qui fait que les luttes sociales ont toujours été beaucoup plus dures en Guadeloupe et sont dans une phase plus moderne qu'en Martinique. Et c'est ce qui explique fondamentalement qu'on ait pu avoir une pérennité absolue du pouvoir béqué et économique en Martinique. Et fin 19e, début 20e, les béqués martiniquais entrent aussi en Guadeloupe. Et vous avez beaucoup ici aujourd'hui de familles que nous appelons blanches créoles, qui sont de familles d'origine martiniquaise.
L'arrivée camarade, Mila, 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 Mila.
C'est ici qu'il est tombé. C'est ici qu'on lui a tiré dessus. C'est bien là. Ici.
Mila, 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 mila,
Mila, mila, consa, mila. Mila, mila, consa, mila. Mila, mila, consa, mila. Mila, mila, consa, mila. Mila, mila, consa, mila.
On attend toujours l'issue des négociations. La nuit est tombée, les tambours continuent de battre. La foule est toujours là, montrant sa détermination. Et une autre rencontre avec Tony Albina, qui est prof des écoles et qui, lui, a une solution. Il faut dire une chose au sujet de la Guadeloupe, c'est que les 25 000 enfants des cantines de Guadeloupe mangent eh bien, des pommes, des poires ou bien des kiwis venus d'Australie. Mais jamais à la cantine, on ne trouvera ananas, mangue, bananes et autres légumes et fruits qui poussent sur place. C'est un de ces tours et de ces détours du capitalisme local qui a le mérite d'être le plus cru et le plus violent et le plus arrogant et qui a le monopole de la distribution. S'il y avait un sondage d'opinion, quel serait le pourcentage de la population qui soutient, qui adhère au mouvement, selon vous?
La question... Je ne sais pas qu'elle est délicate, elle est plus que piégeuse. Comme ça, moi, je dirais une bonne soixantaine de 60%.
Ouais. Moi, je suis beaucoup plus optimiste que Claude en disant...
Qu'êtes-vous, présentez-vous en trois mots?
Je m'appelle Tony Albina, je suis professeur des écoles. Par ailleurs, j'appartiens à une association qui est représentée au sein du LKP. Cap-G, Cap-Guadeloupe, pour faire que les mots d'autonomie alimentaire soient parfaitement intégrés par l'ensemble de la population. Donc,
autonomie alimentaire.
Autonomie alimentaire. Ce n'est pas simplement la question de la suffisance, ça signifie qu'il ne saurait y avoir de société sans que l'agriculture dans la société en question ne puisse donner à manger à l'ensemble de la population. L'autonomie, parce qu'il faut construire l'idée que la Guadeloupe peut s'en sortir avec l'ensemble des forces productives domiciliées dans ce pays-là.
C'est la relocalisation.
La relocalisation, c'est vrai, mais c'est en même temps une dynamique qui prend naissance dans l'agriculture, mais qui a vocation à irriguer l'ensemble du tissu social.
Ça rappelle 68, tu sais. Les groupes de parole en 68, partout dans les rues, tu avais des gens comme ça qui se mettaient en rond. Et n'importe qui se mêlait de la conversation. Là, c'est un peu ce qui se passe. Hein.
Oui. Non, parce que face au caractère dépendant de l'économie de la Guadeloupe, l'idée, c'est qu'il faut faire reculer le plus possible toute forme de dépendance. Et la première forme de dépendance, c'est évidemment la dépendance alimentaire. Alors celle-là, elle est importante parce qu'elle commente les autres activités. Le fait qu'en Guadeloupe, il n'y a jamais eu une vraie production retournée vers les besoins de la population, et que les grandes productions classiques ont été les productions pour l'exportation, pour les besoins de la colonie, rend cette nécessité-là encore plus impérieuse que jamais.
Ici, les Guadeloupéens importent 80% de ce qu'ils mangent, c'est ça?
Absolument, absolument.
Ça, 80% de ce qu'ils mangent dans un pays pareil, où tout pousse avec une facilité. C'est monstrueux, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Mais ça, c'est la logique de la départementalisation.
Non, c'est la logique du capitalisme dans toute son imbécilité.
Il y a un élément qui est très important. Ce que ce mouvement-là a fait vraiment d'extraordinaire, c'est qu'il y a une nouvelle pédagogie qui est développée. Il y a un intérêt pour des questions qui, jusqu'ici, étaient des questions qui étaient réservées à certains. Il y a comme une espèce d'appropriation de la chose publique qui me paraît extrêmement intéressante.
À ce moment-là.
L'idée que les pouvoirs sociaux aujourd'hui, dans les démocraties, peuvent gouverner et piloter les devenirs collectifs quand la classe politique se trouve quelque peu désemparée parce que trop intégrée dans des logiques de complicité avec le patronat, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et il me semble que ça, le gouvernement français l'a bien senti, c'est pour ça qu'il y a autant de résistance pour que la contamination, la contagion ne se fasse pas avec la France hexagonale. Moi, il me semble que le fait que les populations se rendent compte que les politiques ne sont pas à la hauteur et décident provisoirement de confier aux syndicats et au pouvoir social l'idée d'accéder à un progrès plus grand, je pense que cette idée-là concerne toutes les démocraties aujourd'hui.
Démêler fondations, trier au quatrier, bonne jeudi, bonne demain, mais pas avancer
avançons, j'ai levé. Si vous voulez savoir, on l'a oublié, petit fond d'assaut. Faut pas chercher bas, l'ombre à ou masco. Jour soleil qui est chauffé, et qui est porté fraîche bas pour grandir. Dès midi sonné, oh, petit fond d'assaut, oh, petit fond d'assaut. Démêlé fond d'assaut, trié au quatrié. Venez, je dis, venez demain, mais pas avancer. Avançons, j'ai levé. Si vous voulez connaître, oh là où y est, maman fond d'assaut. Faut pas au cossier, d'où va nan ni nan nan. Où que besoin y aller, pour chale tourner li, mais si vérité. Les alliés, oh, oh maman fond d'assaut, oh maman fond d'assaut. Démêlé fond d'assaut, trié au quatrié. Bonne aujourd'hui, bonne demain, mais pas avancer. Avant songer levé.
Jean ça passé, ben nous commençons à discuter. Je fais l'entour, les patrons proposaient entre 50 et 70 euros. Donc bien donné entre 50 et 70 euros. Alors deuxième bité qui fait,
deuxième chose qui s'est passée, c'est passé, que nous nous avons dit à ces gens-là,
proposition à complément RSA là,
nous pas proposition du complément au RSA, nous ne voyons pas du tout ce que c'est. Nous on est venu négocier une augmentation de salaire et on n'est pas venu négocier les allocations familiales. Parce que le RSA,
c'est ça qui va remplacer RMI.
C'est ce qui remplacera le RMI et l'allocation aux parents isolés. L'allocation par parents seuls.
Et là, ça y aura prévoir,
ce qu'il prévoit aujourd'hui, c'est que ceux qui ont les bas salaires, ils auront un complément RSA qui sera calculé sur leur situation familiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une même entreprise, tu vas avoir deux personnes qui travaillent, qui ont le même boulot, qui travaillent avec les mêmes horaires.
Mais
s'il y en a un qui a un enfant, par exemple, il va avoir de l'argent, alors que celui qu'un autre qui n'aura pas d'argent d'enfant, il n'aura pas cette même somme. S'il y en a un qui aura un enfant qui grandit,
et bien,
il n'aura pas ce complément à ce moment-là, selon l'âge de l'enfant. Alors je répète, on est venu pour négocier une augmentation de salaire et pas des allocations familiales, et c'est ce qu'ils nous proposent. Donc c'est pour ça que nous avons dit au patron et nous avons dit à l'État, allez réviser votre copie. Et on a rendez-vous lundi matin à 11h
pour continuer les négociations. En les bases qu'elle a fini,
sur une nouvelle base, et on aimerait savoir justement sur quelle base l'État va venir, parce que l'histoire des allocations familiales, nous on n'en veut pas. C'est pour cette raison qu'on demande à tout le peuple de Guadeloupe de rester mobilisé. On ne va pas lâcher la mobilisation. Nous sommes en grève. Générale.
Alors nous commandons les camarades qui s'y les piquent.
Alors voilà enfin la déclaration finale de vendredi, la déclaration du LKP. Bien évidemment, on voit que la détermination est grande. On voit que pour l'instant, les pourparlers n'ont pas abouti. On voit face à quelle usine à gaz se trouvent les 49 qui font partie de ce collectif et qui, depuis le début, ne sont toujours pas divisés, tiennent bon. Et donc, les négociations reprennent tout à l'heure à 11h locale. Là, on est samedi matin. On est à nouveau devant le Palais de la Mutualité, qui est le lieu sensible où tout le monde se retrouve, rencontre avec Olivier Besancenot.
Gabriel !
Oui, oui, oui.
Gabi !
Oui.
Olivier Besancenot, qu'est-ce que tu fais là ?
Je suis là... invité par des militants et des camarades qu'on connaît depuis pas mal de temps. Je suis venu soutenir évidemment le mouvement de grève générale et le mouvement populaire. Je suis venu apprendre aussi beaucoup, de voir comment ce collectif LKP est né, comment on a réussi ici enfin à fédérer, toutes les organisations sociales, syndicales et politiques, et comment ils ont réussi à monter ce mouvement puissant. Bon, maintenant, il ne s'agira pas d'exporter à la virgule près ce qui se passe ici en France métropolitaine, parce que chaque mobilisation trouve ses propres voies, mais de comprendre et voir tout ce qu'on pourra en tirer. Donc, et puis évidemment, apporter un soutien à un certain nombre de camarades qui se sont fait molester par la gendarmerie sur le barrage du Gosier, en l'occurrence Alex Loya et quelques autres. Donc hier, quand je suis arrivé, on a été sur les piquets de grève, on a été sur des barrages, discuter avec ceux qui les tiennent. Il y a une vie sociale qui s'organise autour des barrages. Je veux dire, vu une métropole dans les médias, on a l'impression comme ça que les barrages, c'est la nuit, c'est des jeunes agités. C'est pas d'abord ça. Les barrages, c'est d'abord des barrages de jour qui sont tenus par les habitants des quartiers qui s'organisent socialement autour de ça. Il y a un petit air de la ville de Oaxaca au Mexique où il y avait eu une occupation, un mouvement populaire.
Olivier, raconte-nous, présente-nous ce jeune homme.
Donc on est avec Patrice. Patrice, c'est... il va l'expliquer lui-même, mais c'est un habitant de la cité Henri IV où Jacques Binot, le syndicaliste, est mort. Et donc hier matin, balancé, quoi, on va dire, à la police, il y a eu une intervention d'une trentaine de membres du RAID. Voilà, alors à la radio, évidemment, ça se voit pas, mais...
Enfin, tu t'es bien fait arranger, quoi, hein. T'as un œil à moitié fermé, la bouche bien... Ils t'ont pas loupé. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est pas vraiment, j'étais en train de dormir et j'ai fait quoi faire... Une vague noire venir sur moi, je me suis retrouvé par terre et voilà.
Quelle heure il était ?
6h du matin.
Le RAID. Comment tu sais que c'est le RAID ?
C'est après la police judiciaire m'a dit que c'est le RAID.
Ils étaient combien ? Ils étaient nombreux ?
Une trentaine à peu près. Une trentaine à peu près. Ils m'ont rien demandé, Ils ont été en train de gueuler, j'ai pas compris. Ils étaient en train de gueuler.
Ils t'ont cassé la gueule comme ça ?
Franchement, j'ai pas compris. J'étais en train de dormir. C'est quand je me suis réveillé, j'ai fait voir que je suis comme ça. Mon œil, ma bouche, tout ça.
Et t'as porté plainte?
Je vais voir le médecin tout à l'heure, lui expliquer ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Qu'est-ce qu'ils t'ont interrogé?
Oui, moi, en prétendant que je suis le meurtrier du monsieur.
Ils veulent absolument que ce soit un jeune qui ait fait le coup. Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Moi, je suis étudiant en droit.
Étudiant en droit quelle année?
À la première année.
Et tu es dans une association, un syndicat, un parti?
Non, pas
du tout. T'es
un jeune
étudiant de la cité Henri IV.
Voilà, c'est tout. D'accord. Je ne descends même pas, je ne suis même pas quelqu'un, un jeune qui traîne en bas, tout ça.
Et donc ils t'ont présenté leurs excuses, c'est ça?
Ouais. Voilà.
Parce qu'ils n'avaient donc rien contre lui. Et,
Qui t'a présenté les excuses?
La police judiciaire.
Ah ouais.
C'est la mamie qui est là, qui était là sur les événements qui se sont passés.
Bonjour madame, c'est votre petit-fils?
Oui, c'est mon petit-fils.
D'accord.
Alors quand ils ont enfoncé la porte, et malgré la porte était déjà enfoncée, hein, mais ils ont tiré encore. Alors quand j'ai entendu
combien
le bruit,
ils étaient
à peu près une trentaine, hein, et armés jusqu'aux dents, et avec des pare-balles,
leurs boucliers.
Voilà, voilà.
Courageux.
Hein? Alors lui, il était dans sa chambre, il dormait. Alors, et ils sont entrés. Alors quand ils ont enfoncé la porte, ils sont entrés. La porte est déjà enfoncée, mais ils ont tiré encore. Alors quand j'ai vu ça, j'ai entendu le bruit,
Ils ont tiré.
Ils ont tiré pour enfoncer la porte. C'est pas des balles en plastique ou quoi, mais ils ont tiré des balles.
Et alors?
Eh bien après, ils sont entrés. Alors je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Ah madame, taisez-vous. Ils m'ont poussé. Et dans la chambre et sur le lit. Alors je leur ai dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que vous voulez? Mais ils sont venus pour mon petit-fils, mais ils sont pas encore occupés de mon petit-fils. Hein. Ils sont là, je vous ai dit, ils ont bouleversé toute la maison. Ils ont cherché partout. Ils ont même cassé mon armoire. Alors je me dis à madame, je me lève, je me dis, eh oui, votre petit fils. Alors je lui ai dit qu'il dort dans la chambre. Ah, ils sont allés, je ne peux pas vous dire. La seule chose que j'ai vue, il était assis sur la chaise et il avait déjà tout le côté du visage abîmé.
Et alors la finale de ça, c'est qu'ils ont fait des excuses et voilà tout.
Oui, ils ont fait des excuses. Il y a une parmi les policiers qui s'est mise à genoux à ses pieds pour lui dire, excusez-moi, pardon, pardon, pardon.
Qui ça?
Une policière, oui. Il s'est mise à genoux. Pardon. Mais hier soir, on a été chercher.
Monsieur le secrétaire d'État nous dit dans une de ses tribunes que l'outre-mer a besoin d'amour, d'un amour sincère. Non, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le ministre, votre gouvernement n'a rien compris à l'outre-mer. L'outre-mer a besoin de respect, d'équité, d'égalité, de justice sociale, pas de compassionnel.
Samedi et dimanche auront été deux journées de répit, deux journées de trêve. Pour les uns, c'est le début de la fin. Pour les autres, ce n'est que ça, qu'une trêve. On attend les résultats, on tiendra jusqu'au bout. Si les négociations n'aboutissent pas, on est prêt à rebloquer entièrement le pays. C'est ce que certains affirment. On retourne pour notre part à Chauvel, c'est un quartier de Pointe-à-Pitre, où nous avions rencontré des jeunes qui étaient sur un barrage. C'était assez tendu, des bagnoles renversées, des trucs cassés dans tous les coins, des tas de ferrailles, enfin bref, un barrage. Là, c'est beaucoup plus détendu ce dimanche après-midi, mais la vigilance demeure.
Oui, il a voté Besancenot, hein.
Oui. Parce que les Français n'avaient pas compris, parce que Besançon, c'est quelqu'un qui s'est levé un peu dans la misère et qui a réussi et qui comprend qu'est-ce qu'est la vie vraiment. Mais Missa Goudi, Missa Goudi ne vont jamais comprendre qu'est-ce qu'est la vie parce qu'ils vont toujours vivre parmi les riches. C'est un truc qui est un peu simple.
Alors ici, on est à Chauvel, on est à l'endroit où vendredi, il y avait une barricade ici qui avait été érigée par les gens du quartier. Donc là, la barricade a été levée. En attendant, donc lundi après-midi, le résultat des négociations, c'est ça?
Mais bien sûr, parce que il faut qu'on reste tous ensemble pour qu'on puisse donner la force. Si on reste de chaque côté de notre côté, personne ne va réussir à rien faire. C'est des trucs qui arrivent.
Donc, lundi après-midi, selon le résultat des négociations, vous allez refermer le passage, enfin la route ou pas, c'est ça?
Oui, c'est. Par contre, c'est bien sûr, on va refermer la route. C'est sûr, on va refermer un peu peut-être plus solide qu'avant, par contre. Mais c'est bien sûr qu'on va refermer.
Selon le résultat des négociations, l'appel du LKP, c'est ça?
Mais bien sûr, moi je suis un militant, alors je vais toujours refermer, ça c'est sûr et certain. Et je vais trouver des soldats pour ça.
En ce moment, la crise qui existe dans le monde actuellement, c'est la faillite du capitalisme. Ça, il n'y a personne qui pourrait me dire le contraire.
Hein? Mais en quoi ça concerne la Guadeloupe, ça, la faillite du capitalisme?
Ouais. Oui, parce que la Guadeloupe, pourquoi la Guadeloupe est si révoltée en ce moment? Parce qu'il y a un moment que la Guadeloupe subit les injustices, les discriminations sociales, les discriminations économiques. Hein? Mais je vous dis qu'en Guadeloupe, en Martinique, c'est les béquets qui détiennent 90%.
Bah oui.
Alors ça, il faut le dire.
Oui.
Et c'est, personne ne va me prouver le contraire. On fait un constat. Nous constatons que tous les leviers économiques, ils sont partout, celui qui décide de tout. Il y a le père, comment il s'appelle encore, Ayotte, hein? Il fait des OPA sur tout, les petits services, et il les accapare.
On se posait une question, là. Est-ce que des gars comme Ayotte, est-ce qu'ils financent par exemple des clubs de foot ou des associations?
Même pas. Sponsor Ayotte, non, pas de sponsor chez Ayotte.
D'accord, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le souci de se faire bien voir de la population, ils s'en foutent.
Non, il y en a pour dire, c'est s'engager des sous, c'est tout, faire rentrer des sous, c'est tout, point très.
Parce que partout, ouais. Tu as quand même, tu vois les gros patrons, ils lâchent un peu de l'aise pour se faire bien voir.
Par exemple.
Ouais. Ils font de la charité, ils ne font pas de charité, Ayotte.
Mais non, pas du tout. Ils ne font pas ça. Vous le savez bien. À un moment, il fallait s'attendre que la voiture va aller exploser. J'ai pensé que cette histoire, cette révolution qui a eu en Guadeloupe, ça serait passé en métropole avant nous. Je l'avais toujours prévu. Quand j'ai vu la manière que Sarkozy débloque de l'argent pour les gros capitalistes, il trouve des milliards et des milliards pour la région Renault. Il trouve des milliards et des milliards. Il redouble ça son salaire. Il n'y a pas d'argent, attention, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, la caisse n'est pas où. Hein.
Les caisses sont vides.
Les caisses sont vides. Hein. C'est dit par Fillon, c'est pas, ça n'a pas été dit par moi. C'est Fillon qui l'a dit. Et le premier ministre de la France. Donc, il est crédible, je pense. Entre parenthèses. Je le dis entre parenthèses. Parce que ces gars-là ne sont jamais, c'est du baratin. Et comme Sarkozy, il a fait on est en crise pendant un mois. Vous avez entendu le discours de Sarkozy? Mais c'est pour la gueule du monde. Ils prennent que tous les Guadeloupéens sont des cons. Ils se trompent. Ils se trompent. Ça ira jusqu'au bout. Je vous assure que ça ira jusqu'au bout.
C'était un reportage de Daniel Mermet et Antoine Chao. Un grand merci à David et Margot Clarin ainsi qu'à leurs enfants et merci à tous les amis guadeloupéens en lutte. Nous vous rappelons que le repère spécial là-bas si j'y suis en Guadeloupe se tiendra aujourd'hui à 11h à la Casa. C'est dans le quartier de La Jaille. À la technique, Lédouine Caron et Antoine Viossard. Réalisation Coyenne Guyenne, Raphaël Moutarde. Assistante Charlotte Perry. Répondeur Agnès Lebotte et le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis 01 56 40 37 37 France Inter. Il est 16h.